ce que je te dis, c'est au lieu de courir après l'assureur dès que tu as le mandat, parce que déjà, tu vas perdre du temps. Parce que si jamais tu as le mandat le matin à 9h, tu fais l'annonce à 14h, le lendemain, le soir même, et passe en annonce, déjà, tu as perdu déjà une journée entière. Et le lendemain, il y a déjà trois agences ou même le propriétaire sur le bon coin qui a déjà mis l'annonce, comme toi. Et donc, lui, il est déjà en train de te faire la concurrence. Donc, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Et je n'ai pas de temps à perdre non plus d'aller faire le hasard, c'est-à-dire d'aller chercher des produits qui ne sont pas vendus et d'espérer qu'ils vont se vendre grâce à moi. Non, moi, j'ai l'acheteur et l'acheteur, il me dit « je veux ça, va me le chercher ». Le vrai travail que vous devez faire non-stop, c'est non-stop. C'est ça votre métier. C'est de faire, d'abord, c'est de faire déjà l'inverse de tout ce que les autres agences font. Parce que dès que tu fais l'inverse et que c'est dans la bonne direction, ça marche terriblement bien. T'as signé le mandat au final, c'est en annonce ou pas?
Non, j'ai pas signé parce que, comme je disais, le mec attend qu'il attend un truc avec la mairie. Il va échanger un terrain contre deux terrains qui sont collés au sien, donc il attend ça déjà.
Et donc,
il veut savoir, il veut connaître la valeur de sa maison.
Oui, alors qu'est-ce qui l'empêche de signer un mandat?
Comment?
Quand est-ce qu'il signe un mandat? Tu lui as pas dit comment tu vas lui donner le prix au final? Parce que tu lui as donné un prix à la fin.
Il n'a pas compris.
Qu'est-ce que tu lui as dit? Dis-moi ce que tu lui as dit.
Je t'ai dit ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'on allait tester le marché. Mais je lui ai dit aussi,
Non. Le prix. À un moment donné, il faut parler de prix, d'accord?
Oui.
D'accord. Donc, comment tu comptes lui annoncer combien ça vaut son bien?
Justement, je ne sais pas. J'ai besoin de vous.
La réponse, c'est pour ça que je vous demande tous les matins. C'est pour ça que je vous demande tous les matins de poser des questions, d'accord? Regarde. S'il y a un truc que je ne fais jamais et que je suis incapable de faire, c'est de faire quelque chose parce qu'on me l'a dit de le faire. D'accord? On m'a dit, fais comme ça et c'est pas autrement. Ça, je supporte pas. Et à chaque fois que quelqu'un m'a dit, fais ci ou fais ça, que quelqu'un me donne un conseil ou quelqu'un d'avisé qui me donne un conseil ou un professeur me donne un conseil, moi, j'écoute, d'accord? Mais je réfléchis à la question et je réfléchis au problème. Une fois, on a posé la question à Einstein. Einstein, dis-moi, si jamais je te mettais un pistolet sur la tempe, d'accord? Et je te donnais 5 minutes pour répondre à une question ultra complexe, dont normalement, tu ne connais pas la réponse. Si je te donnais 5 minutes avec un pistolet sur la tempe, et si jamais tu dépasses 5 minutes, je te tire une balle dans la tête. Comment tu réagirais et comment tu te sortirais de cette impasse? Qu'est-ce que tu dois faire pour me trouver la réponse à la question? La réponse a été flagrante d'Einstein. Il a dit, c'est simple, je vais réfléchir pendant 4 minutes à la question et il me faudra une minute pour te répondre. Tu as compris le principe ou pas? C'est-à-dire, l'idée, c'est de réfléchir vraiment à chaque action que tu mènes. Chaque action est importante. C'est-à-dire que chaque mot que tu dis, ça a un impact sur l'autre. Chaque méthode commerciale que tu fais, tu dois réfléchir à la méthode et tu dois comprendre pourquoi tu fais telle et telle chose. Quand on parle du mandao, c'est un état d'esprit que j'ai, c'est une façon de réfléchir que j'ai, c'est une façon qui existe sur tout le marché et sur la planète, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Donc, l'offre et la demande, c'est ça qui doit guider ta vie quand tu parles du mandao. Donc, c'est quoi l'offre et la demande? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel prix vaut votre... quel montant vous pourrez afficher et coller à côté de votre bien parce que le produit, il n'a pas été présenté à ceux qui sont censés l'acheter. Le jour où les gens ils vont voir votre produit pour la première fois, votre bien pour la première fois, alors moi, je dis produit pour eux, il faut dire un bien, d'accord? Parce que tu dis produit, eux, ils sont vexés. Donc, moi, je te dis comme ça. Tant que les gens ils n'ont pas vu le bien sur le marché, ils ne savent pas évaluer combien ça vaut dans leur tête. Maintenant, sur le marché, quand on va mettre l'annonce pour la première fois, on va rajouter un bien sur le marché. On dit qu'on rajoute une offre sur le marché. Maintenant, l'offre, elle doit rencontrer la demande. Si maintenant, il n'y a pas de demande, personne ne va l'acheter, peu importe le montant qu'on va donner. Si personne n'a envie d'habiter dans votre 45 mètres carrés, ben, il n'y aura personne qui va appeler, peu importe le prix. Et donc maintenant, s'il y a des gens qui veulent acheter à 45 mètres carrés, la question, combien ils ont d'argent dans la poche et à quel prix ils recherchent? Et ça, cette information, on ne l'a pas en ce moment. Parce que le produit, le bien, vous voulez le vendre à 400 000, super. Vous savez comment j'appelle les 400 000 là? Le prix de l'espoir. C'est ce que vous espérez avoir. Maintenant, de l'autre côté de la barrière, il y a un autre gars qui s'appelle l'acheteur, qui lui, en ce moment même, est en train de chercher des biens. Et il est en train de comparer lui-même tous les autres biens par rapport aux vôtres. Et quand il va arriver sur ce bien-là, il faudra que je fasse un taf énorme pour le convaincre que c'est le meilleur produit parce qu'il est unique. Il est comme ci, il est comme ça. C'est ce que je vais faire, que ce soit en annonce, que ce soit au téléphone, que ce soit en visite. Mais ce n'est pas moi qui vais décider du prix et ce n'est pas vous non plus, monsieur le vendeur. La personne qui va décider du prix, c'est celui qui va me faire une offre. Et ce jour-là où j'ai une offre, ça sera le prix que ça vaudra aux yeux de ce client. Et si cette offre, elle ne vous plaît pas parce qu'à vos yeux, ça ne suffit pas, on dira non à ce monsieur le client et on attendra la prochaine offre de quelqu'un d'autre. Mais si on voit qu'on ne reçoit pas d'offre à ce prix-là, il faudra songer à la recevoir. Et c'est ce qui va se passer pendant tout le temps, on va travailler ensemble. Je vais communiquer, je vais commercialiser et je vais amener des acheteurs qui vont faire des visites. À un moment donné, ils vont faire des offres. Le montant des offres, c'est le montant qu'ils sont prêts à sortir. Le prix final de ce produit, c'est le prix que vous allez accepter de la part des acheteurs. Dès que vous êtes d'accord là-dessus, c'est ça le prix du bien. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas cette information. J'ai une partie de l'information, le prix que vous voulez. Maintenant, il faut que je cherche l'autre information. C'est à quel prix les gens ont envie d'acheter votre bien. Comme c'est un bien unique, il n'y en a pas deux comme ça, il faut que je le protège. Il ne faut pas que je diffuse des photos n'importe comment. Il faut que je commercialise comme il le faut. Il faut que je qualifie chaque contact parce que je n'ai pas envie de vous amener des touristes ici. Chaque personne qui va arriver ici aura l'argent. La seule chose qu'il faudra faire, c'est qu'il faut que la rencontre entre l'acheteur et le bien se passe bien. Et ça, c'est mon travail. Est-ce que c'est une bonne réponse, Amir?
C'est une bonne réponse, sauf que tu sais bien qu'il va aller appeler un autre agent pour avoir un prix.
Ah, mais non. Et même s'il le fait, on s'en fout. Mais tu t'en fous. Il ne va pas le faire. Et s'il l'a déjà fait, si tu arrives le quatrième agent immobilier et que toi, tu lui dis ça, c'est très probable qu'il va annuler les autres mandats avec les autres dans les jours qui suivent.
Je suis la première.
Non, mais ça ne change rien. Il peut aller faire des estimations, ça ne changera rien. Regarde comment ils fonctionnent les autres agences, d'accord ? Il ne faut pas que tu aies peur de ça. Je le répète tous les jours et je vais te le répéter encore. La concurrence, on n'en a rien à battre, d'accord ? Elle n'existe pas pour nous. Essaye de vivre comme un cheval, tu vois, avec des œillères, d'accord ? Tu ne regardes pas la concurrence, tu avances tout droit et tu n'en as rien à foutre de ce qu'ils font. Parce que comment font les agences déjà immobilières pour que tu comprennes ? Elles font des estimations, réellement, d'accord ? Maintenant, quand une agence arrive troisième, avec trois négociateurs qui sont passés avant et que les trois, ils ont fait une estimation. C'est comment font les agences immobilières en général, les négociateurs débutants qui ne savent rien faire, qui ne savent pas négocier, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, monsieur, quoi? L'autre, il vous a estimé à 400 000? Moi, je vous l'estime à 420.
Ben, c'est ça. C'est ça.
Oui, mais c'est pour ça que tu dois t'en foutre de ce que font les autres agences immobilières à côté. Parce que chacun cherche à tirer la couverture vers lui. Comme les autres agences cherchent à prendre des mandats et toi, tu n'en as rien à faire du mandat. Toi, tu veux juste faire la visite pour vendre à ton acheteur que tu as déjà. La façon de réfléchir, elle est différente. Tu t'en fous réellement du mandat. D'ailleurs, je ne te dis pas qu'il faut pas signer le mandat. Je te dis que si tu as un mandat ou tu n'as pas un mandat de la part du vendeur, on s'en fout. Parce que si tu as l'acheteur, tu as toujours un mandat de recherche et la possibilité de faire une vente. Donc, on s'en fout réellement du mandat. Le mandat, il est bien si tu as envie de faire de la publicité plus tard, si tu as envie d'être un peu plus à l'aise dans le travail. C'est encore mieux si tu as un mandat exclusif parce que il y a personne qui va te faire chier pendant tout ce temps-là. Mais de l'autre côté, la seule chose que tu as à faire dans ce business, c'est d'amener un acheteur qui achète. C'est tout ce que tu as à faire là-bas.
C'est la règle.
C'est tout ce que tu as à faire. Je ne sais même pas ce qu'on fait d'autre à part ça. Dire quand tu vas chercher un mandat et que tu vas dire je fais un drone, je fais des photos professionnelles, je fais des beaux textes, etc. Et je prends de l'argent, je le mets sur ce loger. C'est pour faire quoi? C'est pour amener un acheteur. Moi, ce que je te dis, c'est au lieu de courir après l'acheteur dès que tu as le mandat, parce que déjà, tu vas perdre du temps. Parce que si jamais tu as un mandat le matin à 9h, tu fais l'annonce à 14h, le lendemain, le soir même, il passe en annonce, déjà, tu as perdu déjà une journée entière. Et le lendemain, il y a déjà trois agences ou même le propriétaire sur le bon coin qui a déjà mis l'annonce, comme toi. Et donc, lui, il est déjà en train de te faire la concurrence. Donc, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Et je n'ai pas de temps à perdre non plus d'aller faire le hasard, c'est-à-dire d'aller chercher des produits qui ne sont pas vendus et d'espérer qu'ils vont se vendre grâce à moi. Non, moi, j'ai l'acheteur et l'acheteur, il me dit, je veux ça, va me le chercher. Mais comme je te l'ai dit, je ne travaille jamais avec un acheteur. Je travaille toujours avec des dizaines d'acheteurs qui recherchent la même chose. Donc, s'il y en a un qui ne lui plaît pas, mais il y en a toujours 9 autres. Le vrai travail que vous devez faire non-stop, c'est non-stop, non-stop, non-stop. C'est ça votre métier. C'est de faire déjà l'inverse de tout ce que les autres agences font. Parce que dès que tu fais l'inverse et que c'est dans la bonne direction, ça marche terriblement bien. Mais tu dois faire l'inverse, c'est-à-dire de te préoccuper de ceux qui te payent ta commission, c'est-à-dire les acheteurs. Et tu cherches pour eux. Ces gens-là, ils vont t'adorer, ils vont investir avec toi de l'argent, ils vont le faire chaque année et tout le temps. C'est ça ton but. N'oubliez pas qu'un acheteur, c'est un futur vendeur. Et je vous ai lancé une vidéo la dernière fois qui est diffusée sur Le Bon Coin. Et Le Bon Coin l'avoue, et je vais en faire une vidéo moi aussi que je vais mettre sur YouTube pour bien expliquer ce qui se passe dans cette vidéo. Mais Le Bon Coin le dit lui-même dans sa vidéo que sur 100% des acheteurs qui appellent des propriétaires pour acheter des biens, sur 100% des acheteurs, 40% d'entre eux sont vendeurs. 40%, ce n'est pas moi qui le dis, alors que je vous le dis tous les jours, ça. Je vous le dis tous les jours. Mais Le Bon Coin, pourquoi ça m'intéresse cette vidéo? Parce que ça confirme ce que je vous dis tous les jours. C'est tout. Et si jamais au téléphone, tu n'es pas capable de faire un relationnel avec l'acheteur, qui lui est même potentiellement propriétaire d'un bien dans 40% des cas, d'après Le Bon Coin, si tu n'es pas capable d'aller lui proposer tes services à cet acheteur, parce que tu sais qu'il a un bien à vendre, ben, tu es déjà en train de rater un mandat. Donc, la course après les mandats, elle est futile quand tu sais que tous les acheteurs… Regarde, tu sais que chaque agence qui ne se préoccupe pas des acheteurs, c'est ce qu'ils me disent. C'est quelle est l'excuse qu'ils me disent à chaque fois que je leur pose la question? Les clients, alors, ils sont où? Et qu'est-ce que vous faites avec eux? Très souvent, ils me disent, on s'en fout un peu. Vous savez, dès que je mets un mandat en ligne, le téléphone sonne, on n'a pas besoin de saisir les contacts, ils vont nous appeler. Ces gens-là, d'accord, pour moi, c'est des rigolos, c'est des charlatans et c'est des gens qui vont disparaître. Mais ces gens-là qui n'en ont rien à faire des acheteurs, ce sont les mêmes personnes qui, tout le restant de leur vie, de leur agence, vont continuer à prospecter matin, midi, soir sur le bon coin. Ils vont savoir faire que ça. D'accord ? Si toi, tu te préoccupes des acheteurs, de chacun d'entre eux, qu'ils soient propriétaires d'un bien ou non, qu'ils soient locataires ou juste locataires, si tu te préoccupes de tous ces gens-là et que tu les pousses à acheter, sache que la base de données que vous devez constituer aujourd'hui, la meilleure, hein, celle qui sera de la plus haute qualité de base de données, ce sont tous ceux qui sont locataires aujourd'hui. D'accord ? Écoutez-moi bien. Hein. Tous les locataires que vous allez rencontrer dans la rue, enfin des locataires, n'importe qui, hein, dans votre communication sur les réseaux sociaux, je vous conseille de commencer dès aujourd'hui à parler à des étudiants, à parler à des jeunes de 20 ans, de 21 ans, 22 ans, 25 ans, et parce qu'ils sont locataires en ce moment-même. Pourquoi il faut leur parler à ces gens-là ? Parce que quand tu vas les conseiller pendant plusieurs années, d'accord, sur leur envie d'investir, d'acheter, d'être propriétaire de leur bien, le jour où ils vont vouloir acheter, ils vont acheter par toi. Et le jour où ils vont vouloir vendre, ils vont vouloir vendre par la personne qui leur a conseillé d'acheter. Et le but, c'est ça, c'est d'accompagner les gens dans toute leur vie. Et si tu commences quand ils sont locataires, ils vont continuer à enchaîner avec toi quand ils vont vouloir être acheteurs. Et devine quoi, le jour où ils vont être vendeurs, ils vont enchaîner avec toi aussi. Et donc, en traitant les locataires comme il le faut déjà, je ne te dis pas de parler colocataires, mais je te dis la base de données la plus puissante qui va te générer de l'argent dans quelques années, c'est une base de données de locataires aujourd'hui qui vont devenir demain propriétaires. Parce qu'un locataire aujourd'hui, c'est quoi ? Regarde bien un locataire, comment il peut t'enrichir. Regarde bien et écoute bien ce truc. Un locataire aujourd'hui en France, à Paris, région parisienne, enfin je pense que c'est en France partout pareil. Un locataire, pour pouvoir louer un bien, il doit avoir minimum 3 fois le montant du loyer. Minimum, d'accord ? Donc c'est quelqu'un qui a obligatoirement un CDI. Dans la majorité des cas, je ne te parle pas de ceux qui sont dans des trucs favorisés ou autres. Je te parle de manière générale, dans le privé, tous les locataires ont minimum 3 fois le montant du loyer. Donc, quand tu sais que tu as dans une rue des loyers entre 900 et 1600 euros, tu as des gens très riches en face de toi, très riches. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui paye un loyer à 1700 balles, il gagne minimum 5, 6, 7 000 euros par mois.
Moins 5 000.
Ouais. OK, minimum ça, minimum ça. Je ne te parle même pas de sa voiture et des charges qu'il a. Donc, quand tu as un locataire qui paye 1600 balles par mois, celui-là, tu dois le choper, l'attraper ici, lui dire « mais t'es fou quoi ? Il faut que tu achètes avec ton pouvoir d'achat ». Parce que des gens comme ça, ils vont vivre leur vie entière sans jamais investir dans l'immobilier alors qu'ils pourraient le faire. Qu'est-ce qui leur manque à ces gens-là ? Tu sais qu'est-ce qui leur manque ? Un coup de pied dans le cul. Va prendre un crédit, bordel de merde. Et ces gens-là, ils sont capables de payer un loyer à 1700 balles au lieu d'acheter une baraque à 1700 balles de crédit. D'accord ? Donc, ces gens-là, quand ils sont locataires, il faut les convaincre d'acheter. Il faut les convaincre d'investir. Et ils sont très faciles à convaincre parce que tu n'es pas la seule à parler d'investissement immobilier. Et encore une fois, moi, je te dis, il faut les convaincre parce que le but, c'est de leur faire gagner des sous. Quand tu fais investir quelqu'un dans l'immobilier, je ne te dis même pas de lui dire de partir et de vendre ou de déménager. Je ne te parle même pas de ça. Je dis, monsieur, vous avez déjà 1700 euros de loyer et vous arrivez à vous en sortir. OK, venez, on va à la banque et on achète un petit truc. Parce que quand vous avez déjà normalement un salaire de 5000 euros par mois, la banque, elle est capable de vous prêter au moins 100 000 euros aujourd'hui. Au moins 100 000 euros. Avec 100 000 euros, on peut acheter 2-3 petits trucs sympathiques dans l'immobilier. Et donc, tu le transformes en investisseur, même s'il ne veut pas acheter sa baraque pour y habiter. Et avec lui, tu vas faire beaucoup d'affaires dans le futur. Parce que devine quoi, n'importe quelle personne qui achète, à un moment donné, il va se séparer de ses biens. S'il a fait une bonne affaire, il va la garder ou il va attendre le bon moment pour la revendre. Et si demain, il a besoin de cash, il va devoir revendre. Donc, tous les investisseurs que tu auras dans la main ou que tu auras accompagnés depuis leur plus jeune âge, parce que tu es jeune, Samir, tu comprends ? Moi, j'ai encore peut-être 30 ou 40 ans d'espérance de vie. Toi, tu en as 70 ou 80, tu comprends ? Donc, dans ta vie, si tu as décidé de faire de l'immobilier, c'est pour le restant de ta vie. Tu vas accompagner les gens de 20 ans aujourd'hui, encore pendant 20 ans. Va savoir comment on va les accompagner demain. Aujourd'hui, c'est live, Instagram, TikTok. Demain, c'est le métaverse. Demain, c'est plein de trucs qui vont se passer. Mais quoi qu'il arrive, tu accompagneras ces gens dans leur prise de décision. Sinon, on ne sert à rien, tu comprends ? Si on est là pour mettre des annonces sur ce loger, on ne sert à rien. Si on est là pour pousser les gens à faire des bons choix d'investissement, ça change tout. Pour moi, c'est ça mon métier. Mon métier, ce n'est pas de vendre des affaires trop chères, surévaluées à des gens qui vont s'endetter pendant 25 ans et ne plus jamais pouvoir le revendre au même prix et retirer leur argent. Ça, je ne sais pas faire. Pour moi, ça, c'est de l'arnaque. Et c'est ce que passe dans beaucoup d'agences immobilières. Ça, c'est de l'arnaque, de dire aux gens, tiens, achète. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui veulent acheter. Donc, je ne vais pas les forcer, je ne vais pas les empêcher d'acheter. Il y a des gens qui sont prêts à payer ça, qui payent. Mais moi, j'essaie de me constituer une clientèle différente. Celle des investisseurs marchands de biens depuis 20 ans. C'est-à-dire les gens qui vont vouloir acheter pour investir. Et ceux qui ne savent pas comment investir, ils me posent des questions. C'est exactement ce que je fais tous les jours sur les réseaux sociaux, juste tous les jours. Et en faisant ça, j'ai énormément de gens qui viennent des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, qui me posent des questions et au final, ils me disent « j'ai envie d'acheter ». Alors moi, je le dis, inscrivez-vous sur ma mailing list pour que je vous envoie mes bonnes affaires dès qu'elles arrivent. Et c'est tout. Tu comprends ? Donc moi, aujourd'hui, quand j'ai un produit, en quelques secondes, il est vendu parce que j'envoie des mails à plus de 38 000 personnes. Tu comprends ? C'est ça la grosse différence. Un marchand de biens, par exemple, ne va pas réagir de la même manière qu'un particulier. Un particulier, si je lui vends une affaire, je lui vends son bien en 2 minutes, il va dire non, monsieur, c'est trop cher payé. Si un marchand de biens, je lui vends son affaire en 2 minutes, il me dit super, viens, on achète une autre. Parce qu'il a gagné de l'argent en 2 minutes. Tu comprends ? Il sait très bien comment ça fonctionne, tu comprends ? Une affaire vendue n'est plus à vendre. Et dès que tu as mobilisé trop d'argent et que tu l'as vendue, tu as besoin du cash pour acheter une autre affaire. Un marchand de biens, il est là pour faire tourner le fric. Le particulier, il n'a pas cet état d'esprit. Donc, quand tu es avec un particulier, pour revenir à tout à l'heure, si jamais tu fais trop vite les choses, ce n'est pas bien. Si tu n'expliques pas ce que tu fais, ce n'est pas bien. S'ils ne comprennent pas que c'est difficile ton métier, ce n'est pas bien. Et donc, dans ta façon de travailler, que ce soit avec le mandat ou ailleurs, il faut que les gens comprennent que ton travail, tu l'as déjà fait et tu vas continuer à en faire. Mais ce que tu as fait pour amener des acheteurs, ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Aujourd'hui, il faut que tu commercialises le produit pour faire que les acheteurs aient envie d'acheter ce bien au plus haut prix possible. Tu comprends ? C'est ça ton discours avec ces gens-là. Okay ? Maintenant, est-ce que tu as entendu parler du mandat diffusion plus, par exemple ?
Alors, je n'ai pas bien saisi la
variante. La variante, ouais, la variante, elle est que tu travailles uniquement en mandat de recherche.
Ah oui, d'accord.
Okay. Non, c'est-à-dire que la personne, elle va signer un document où il y a marqué qu'elle ne te payera jamais rien, qu'elle peut arrêter le mandat quand elle veut et qu'elle ne te doit rien. C'est ça qui est marqué. Et donc, quand elle signe ça, donc elle s'engage à rien et elle est obligée de rien. La seule chose qu'elle te fait quand elle signe ce document, c'est qu'elle te permet de diffuser l'annonce et faire des visites. En fait, c'est un permis de diffusion. Ce qui fait que même un vendeur le plus hargneux qui existe, dit, monsieur, vous voulez des bons clients ? Moi, j'en ai plein. Mais on peut en avoir plus si je diffuse l'annonce. Maintenant, je ne vous demande rien, ni d'argent, ni de commission, ni rien du tout, ni de mandat. Juste, j'ai besoin de votre permis de diffuser. C'est tout ? Tout simple. Et les gens, ils signent. OK ?
Ouais. Et j'avais juste une dernière question. Je voulais éventuellement mettre une annonce, tu vois, sur le bon coin avec tu sais, les trois localisations, prix, surface, juste pour voir comment ça prend, sans évidemment sans que ce soit celui-là, mais juste mettre ces trois éléments pour voir tu vois à peu près comment réagit déjà le marché, ou peut-être déjà choper des acquéreurs.
Oui, mais quand tu les mets les annonces, il faut y aller dans le but de choper des acquéreurs, c'est-à-dire on ne fait pas des tests.
Oui, c'est ça.
Ne fais pas des tests. Par exemple, imaginons que le bien que tu vas démarcher, là, il est à 200 000. D'accord ? Imaginons que le vendeur en veut 200 000. Tu dois être capable de mettre aujourd'hui plusieurs annonces différentes sur différents sites. Un bien à 200 000, un à 210, un à 220, un à 230 et un à 190, un à 180, un à 170. Parce qu'il y aura cette marge de négociation. Tu vois ou pas ? 30 000 euros en dessus, 30 000 au-dessus, 30 000 au-dessous. D'accord ? Si tu fais 5-6 annonces avec ce panel de prix, tu auras absolument tous les acheteurs du marché qui recherchent ce type de produit. D'accord ? Ceux qui ont cherché à 180 000, il faudra les faire rehausser de 20 000. Ceux qui ont acheté et ils ont cherché à 230 000, tu vas pouvoir leur vendre un truc à 200 000.
Mais le truc, c'est que c'est un petit village. Tu vois, c'est un tout petit village. Donc, oui. Si tu veux, sur le bon coin, il y a 4 annonces.
Et alors ? Bah, il y en aura 6.
Comment ?
Chez toi, il y en aura 6 et jamais avec les photos du bien. Et alors, ça change quoi ?
Ok.
Si tu ne mets pas les photos du bien, tu ne mets pas ton prénom et ton nom, tu mets un autre. Comment ils vont savoir que c'est toi ?
Ok.
Et tu crois que vraiment, les gens, ils ont que ça à foutre, d'aller chercher sur le bon coin les annonces qui sont arrivées ? Et s'ils le font, ben, ça va être un plus encore pour toi, pour la négociation. Quand quelqu'un voit qu'il y a 2 biens similaires, à des prix moins chers, ça va le faire flipper. Tu sais, je n'ai jamais réfléchi à ça, je viens de réfléchir maintenant. En vrai, il faudrait mettre des annonces moins chères, rien que pour faire chier le vendeur pour qu'il baisse. Non, non, mais je ne le ferai pas, parce que c'est une idée tordue là, que je viens d'avoir, mais... tu vois, bien sûr, si les personnes elles passent leur temps sur le bon coin à regarder les annonces des autres, ben, ils vont flipper parce qu'ils vont voir plein de biens qui sont en dessous de son produit là, de son produit, alors que c'est la même surface et la même localisation. Donc ça peut être que bien pour toi, mais encore une fois, on s'en fout. Si jamais tu mets pas le bien, les photos, et que les gens ne puissent pas le reconnaître, ils vont jamais savoir et on s'en fout. Il y a 6 millions d'annonces sur le bon coin, on s'en fout.
Je fais un faux truc, c'est comme on off, je l'ai mis moi on off.
Ben oui, c'est très important ce genre d'outil.
Moi aussi, je l'ai mis.
OK. Allez, question de dernière minute, les amis. Ou on se quitte comme ça ? On met la musique triste ? On met la musique triste ? Non ?
Non.
C'est bon, pas de question. Kevin, tout va bien pour toi ? Tu avances, mon ami ? Tout va bien ? Voilà, si tout va bien, les amis, alors je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et on se voit demain matin, au Vivorning, comme d'habitude. OK ? Allez, bye bye.